murs ont des oreilles, une émission réalisée par les étudiants en journalisme de Lannion. Le logement social en milieu rural, parole aux habitants.
Vivre en milieu rural, c'est un choix.
Oui,
pour avoir la tranquillité, puis pouvoir profiter du soleil comme on est là.
Il y a plutôt une bonne ambiance, c'est plutôt bienveillant. On organise des choses ensemble, les enfants jouent ensemble.
Non, à choisir, non, je ne retournerai pas vivre en ville. Je préfère la campagne, c'est plus tranquille. Je me dis que j'ai un appartement comme ça sur Vannes, je le paye, si c'est pas deux fois plus, le loyer. C'est même sûr.
Sur les logements, je vous dis pas que c'est bien.
Mais bon, c'est vrai que c'est dommage, même pour les gens qui vont arriver après moi, je vais pas leur dire que c'est un super appart.
On n'est pas malheureux. On a notre chez-soi, on fait comme on veut, on est bien, quoi. Moi, je trouve que c'est parfait, non ?
Je connais personne, à part le voisin, voilà. Ouais, j'ai vu personne, en fait, donc je me suis accueilli tout seul.
Une émission présentée par Chloé Magister.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Les Murs ont des oreilles. Les Murs ont des oreilles, c'est une émission réalisée par les étudiants en journalisme de l'IUT de Lannion. Ce sont même deux émissions qui seront diffusées sur tout le territoire breton. Deux heures où nous vous parlerons logement social. Mais d'ailleurs, si je vous dis logement social, à quoi pensez-vous ? Un Tetris de barres HLM dans les grandes villes ? Des quartiers mal desservis où les gens ne se mélangeraient pas ? C'est une des réalités, mais dans Les Murs ont des oreilles, nous allons vous parler d'une autre réalité, celle du logement social en milieu rural. Dans cette première émission, nous avons justement prêté l'oreille aux habitants de ces HLM au cœur des bourgs bretons. De Quibriac en passant par Louannec et Carré, nous avons voulu mieux cerner qui habitait dans ce type de logement à loyer modéré, mais aussi pourquoi et comment. Avec nous pour répondre à ces questions, Stéphane Martin et Yasmina Eligon, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Stéphane Martin, vous êtes directeur de l'agence Bretagne de la Fondation Abbé Pierre. Ça. Yasmina Eligon, vous êtes, vous, la vice-présidente rennaise de Consommation Logement Cadre de Vie, une association nationale de défense des consommateurs et usagers.
C'est ça.
Nous sommes ensemble pendant une heure. Au programme de cette première émission, nous vous ferons réagir à plusieurs reportages, notamment un du côté de Perros-Guirec, où l'on entendra que le mal-logement concerne à la fois les locataires, bien sûr, mais également les propriétaires bailleurs. En fin d'émission, vous pourrez retrouver notre mini-série sur les alternatives au logement social. Aujourd'hui, il sera question des logements étudiants Campus Vert qui nous arrivent des Hauts-de-France pour s'installer dans les fermes bretonnes. Mais avant toute chose, un petit point législatif sur la loi SRU qui encadre les logements sociaux avec Redidja Zerouali.
Une meilleure répartition des logements sociaux sur le territoire. C'est l'objectif de la loi SRU, comme solidarité et renouvellement urbain votée en 2000. Depuis, la commission SRU veille à sa juste application. Cette loi impose en Bretagne 20% de logements sociaux pour toutes les communes de plus de 3500 habitants. Pour être concernées, elles doivent se trouver dans des agglomérations qui comptent au moins 50 000 âmes et une ville de 15 000 habitants. Vous suivez toujours ? Eh bien après les chiffres, les punitions. Si ce quota n'est pas respecté, les communes mauvaises élèves reçoivent des amendes salées. Et pour celles qui ne font vraiment pas d'efforts, le préfet peut même appliquer son droit de préemption. En clair, ce n'est plus à la mairie, mais à la préfecture de reprendre les rênes pour la construction de logements sociaux.
Et maintenant que vous avez tout compris sur la loi SRU, en parlant de construction de logements sociaux, la Bretagne, bonne élève dans ses principales agglomérations, mais pas seulement, elle est même l'une des régions qui développe le plus de logements sociaux en milieu rural, des endroits parfois éloignés des commerces, des services et des bassins d'emploi. La question des transports devient alors un enjeu important pour ces communes. Du centre Bretagne au littoral costa-armoricain, Valentin Giraud et Mathilde Cyr sont partis à la rencontre de ces habitants et élus qui vivent tous les jours avec ces contraintes.
Voilà. Ah, on a fait.
Ah oui, sinon, c'est une amende.
Face au manque de transport en commun dans les milieux ruraux, certaines agglomérations lancent des initiatives. Par exemple, au sein de Poer Communauté, le réseau Hep le Bus ou encore Taxicom, un service de taxi pour 2 euros. Dominique Cogent, vice-président en charge des transports au sein de Poer Communauté, et Léna Bourris, chargée de mission transport et habitat.
Ça permet aux habitants des communes rurales d'emprunter un véhicule pour effectivement faire leurs courses ou pour leurs rendez-vous médicaux. Ça fonctionne très bien puisque c'est environ 3000 personnes qui sont transportées actuellement par an.
Les usagers de Taxicom, on est sur un service de transport à la demande qui vient prendre les gens à leur domicile
et les amène jusqu'à l'endroit précis où ils veulent aller.
Et ces taxis, les habitants peuvent les utiliser dans leur vie quotidienne.
Pour venir faire mes courses, pour venir si j'ai à venir chez le dentiste, chez le médecin, pour tout. Hein. C'est vraiment un service à la personne.
Mais certains Carréziens, comme Jacqueline Martin, qui vit dans un HLM, utilisent d'autres moyens pour se déplacer.
Moi, je ne l'utilise pas beaucoup parce que j'ai ma voiture. Le covoiturage fonctionne pas mal, parce que les gens se connaissent tous. Et donc, ils s'arrangent entre eux, entre voisins. Un voisin va rendre service quelquefois. Par exemple, à une personne qui ne conduit pas et qui a besoin d'aller, exemple, à Morlaix, voir l'ophtalmologiste. Oui, c'est un voisin qui fait le taxi. Carré est particulièrement réputé et elle le mérite pour la solidarité qui existe énormément dans Carré.
Une solidarité locale et au niveau national, une loi adaptée. La loi SRU fait des exceptions. Les villes avec trop peu de transports en commun ne sont pas obligées de construire 20% de logements sociaux, comme à Trébeurden, où une seule ligne de bus est à la disposition des habitants. Michèle Pratt-Lemoyle, adjointe aux affaires sociales.
Alors, nous n'avons pas suffisamment de bus. Il faudrait qu'on soit desservi à peu près toutes les 15 minutes par un bus pour aller à la ville la plus importante. Nous sommes tranquilles encore 2 ans. Pendant 2 ans, nous avons encore l'exemption, mais après, quid. Et vous avez des gens même sur les listes là, de candidats pour les logements qui s'imaginaient qu'il y avait tous les transports voulus. Et quand ils savent qu'il n'y a pas de transport, ça les freine un peu. Quoi.
En Bretagne, 24 communes sont exemptées de la loi SRU, faute d'un réseau de transports en commun assez développé.
Alors sur ce premier sujet, Yasmina Eligon, est-ce que vous avez une première réaction? Est-ce que dans vos permanences et vos réunions, la question de la mobilité, elle revient de temps en temps?
Pas spécialement. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les personnes demandeuses de logement social qui privilégieraient le rural à l'urbain, les raisons principales de notre point de vue, c'est pour avoir un logement plus grand, un peu plus d'espace. On l'a entendu dans le reportage, bénéficier peut-être davantage de la lumière, du soleil, des petits oiseaux, donc la vie dans la nature, effectivement. Mais par contre, la proximité des services, c'est un point important, mais on ne peut pas dire que ce soit une réclamation qui arrive régulièrement dans nos permanences.
Merci pour cette première réaction. Maintenant, donc, direction l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan, où les logements sociaux forment des villages. À Locmaria-Grandchamp, par exemple, le bourg a d'ailleurs été totalement repensé dans la logique des villages-services, un concept qui allie logements sociaux, aide à la personne et commerce. Du côté de Québriac, à 30 km de Rennes, se situe le village de Courtil-Noé. On y trouve des logements sociaux pour les personnes âgées, accessibles et à proximité du centre de la commune. L'objectif, rompre l'isolement à travers des activités. Avec Mathilde Cyr, nous avons rencontré ces habitants qui vivent au rythme du village.
C'est pas une maison de retraite, vous voyez, chacun est chez soi. Et puis on y fait ce qu'on veut. Je fais ma cuisine, je vais où je veux, je rentre quand je veux, alors que je veux. Alors qu'une maison de retraite, c'est quand même pas ça. On mange dans une salle à manger tous ensemble, le soir c'est la même chose. Et puis bon, on rentre pas comme on veut, on ne rentre pas à n'importe quelle heure de la nuit tous les jours, mais ça peut arriver. Et puis non, on a une liberté, on est libre, je suis libre de faire ce que je veux. Ah oui, c'est l'autonomie totale, oui. Vous savez, ici, il y a des réunions, souvent, puis il y a des trucs. Bon, il y a un jeudi par mois, il y a des jeux pour tous, même pour les gens de l'extérieur. Ben, j'y vais, des fois je suis pas partie toute la journée, je vais voir une amie, j'arrive un petit peu au milieu de l'après-midi, ben je vais un petit peu à la salle, quoi. Ah oui, moi je suis très bien avec tout le monde.
Hein. Alors ceux qui veulent aller dehors, autant que vous voulez. Il y en a qui veulent faire la partie de pêche.
Et les petits poissons, ça?
Oui.
Moi, je suis Marie-Madeleine Gamblin, je suis donc élue en charge du projet, je suis adjointe aux affaires sociales sur la commune. C'est vrai que c'est une initiative qui date depuis quelques années. On a commencé en 2009, on avait une idée d'un projet de proximité, de domicile, en tout cas pas de maison de retraite. On a travaillé beaucoup avec le local, les habitants de Québriac, ils ont été très très vite associés à ce projet-là. Puis on est arrivé à une idée de projet, en tout cas qui s'intégrait dans la vie, bien sûr, mais aussi le caractère rural de la commune. On s'est très vite orienté vers un autre partenaire, parce que petite commune, pas de moyens. Et donc on s'est orienté vers un bailleur social qui est Néotois. Nous souhaitions y mettre vraiment une plus-value à ce projet, qui était la création d'un poste.
Huguette, qu'est-ce qu'elle fait, Julie ?
Elle fait un peu de tout.
Elle fait un peu de tout. Ah, tout ben est voilà.
Et
voilà.
Elle s'occupe de nous.
Elle vient nous porter le soir.
Bien.
Elle s'occupe de nous bien.
Julie Feudet, donc coordinatrice de vie sociale locale.
Et alors, ça, c'est le titre officiel de votre poste.
C'est ça, vous avez entendu le débat tout à l'heure. C'est l'intitulé. Voilà. Mes principales missions sont vraiment donc de l'accompagnement, on va dire, plus individuel aussi des personnes, donc répondre à leurs besoins. Ça reste en s'adaptant bien sûr aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer ou autres, en complément des familles, des services de soins qui existent par exemple. C'est vraiment lié à la vie quotidienne. Donc oui, ça peut être lié au chauffage, ça peut être avoir un contact lié à un médecin, une infirmière. C'est aussi être à l'écoute. Et maintenant, on connaît, ça va faire 3 ans, donc on connaît bien les personnes. Donc c'est aussi avoir une veille. Et puis, quand on voit que la personne, elle n'est pas très bien, justement, essayer de soit la guider, l'orienter, ou solliciter la famille quand il y a besoin. Donc, c'est vraiment dans l'accompagnement, dans le soutien, mais jamais en s'imposant, en tout cas.
Ah bah, on est heureux. On n'est pas malheureux. On a notre choix, on fait comme on veut. On discute avec la voisine si elle est dehors, quand il fait beau, même on va chez elle, moi je vais chez ma voisine des fois. Puis quand on se trouve, on se parle. Et puis à la salle, eh ben, on se parle, on est bien, quoi. Moi je trouve que c'est parfait, non ?
Nous sommes maintenant à Locmaria-Grandchamp. C'est l'une des premières communes bretonnes à avoir adopté le concept du village-service pour répondre à une forte augmentation de la population. En plein cœur du bourg, commerces, logements sociaux et services font désormais le lien entre la place de l'église, l'école et les lotissements de la commune.
Alors moi je m'appelle Leslie Le Stinf, j'ai 25 ans, je travaille ici à la commune de Locmaria et ça va faire depuis juin 2015 que je suis ici dans le logement HLM.
Vous avez quand même grandi ici ?
Grandi, oui, je suis arrivée à l'âge de 8 ans on va dire. Donc je connais un peu la commune, ouais. Je savais comment c'était avant qu'il y avait tout ça, tout le centre-bourg. Il n'y avait rien quoi. Il y avait une statue, une maison, la maison d'une amie à moi qui était là, qui a déménagé un peu plus loin. Et non, il n'y avait rien du tout. C'est vrai que ça change. Il y a la coiffeuse en bas, l'ostéopathe, il n'y a pas du tout de soucis. Ça se passe bien, il y a le marché le jeudi ici, il y a la maison familiale, donc les personnes âgées. Non, ça se passe bien. Il y a un local qui n'est pas encore... plusieurs locaux qui ne sont pas encore pris, mais ça se fera dans le temps. Plus il y a de choses qui sont faites, plus une commune s'agrandit, plus les gens ont envie de venir aussi. Plus il y a de commerces, plus ça intéresse aussi. Ça change la vie d'avoir une boulangerie, ouais, une bonne boulangerie en plus.
Bonjour. C'est rare, ça soit calme comme ça.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui reste alors ?
J'ai des
galettes. Ah bah de moi, oui. Bien cuit.
Le kit Virginie, j'ai 30 ans. Mon ami Nicolas Cadoret en a 34. On a décidé en fait de créer notre boulangerie en milieu un peu rural pour avoir la proximité en fait avec les clients. D'où le choix de l'installation à Locmaria-Grandchamp. Il y avait une boulangerie il y a plus de 50 ans, je crois, ici. Et il n'y avait rien eu depuis. Donc ouais, ça a été dans la dynamique de la création du projet. Et donc les gens étaient contents de pouvoir retrouver en fait des habitudes. C'est une petite commune, donc on se croise et on sait qui est qui, en fait. Voilà, il y a vraiment un lien de proximité qui se fait. Il y a les activités qui font aussi qu'on se retrouve au même moment, aux mêmes endroits, qu'on partage d'autres moments, justement. Parce que les fêtes, de les voir en dehors de la boulangerie aussi, ça crée des liens différents. Ça se voit, les enfants, ils nous voient, ils sont contents. Voilà. J'aime vraiment ce côté, être près du client.
Non, moi je m'appelle Émilie Crétin.
Tu
suis arrivée donc à Locmaria il y a 9 ans. J'habitais déjà juste derrière la mairie avant. Oui, donc j'ai vraiment vu ce projet se construire. L'ambiance est très bonne. C'est vrai que non, aujourd'hui, les voisins sont devenus des amis, en fait. Régulièrement, on va se donner des coups de main. Enfin, ils vont garder mes enfants. Voilà, c'est vraiment devenu... on va aller les uns chez les autres, prendre facilement un verre ou un café. Et oui, le quotidien avec les voisins, ça fait du bien. Ça permet de se reposer. Pour être honnête, hein, le logement social, ça reste quand même le loyer qui est quand même abordable. Hein. Moi, ça me permet de me reposer financièrement. C'est un excellent tremplin. Voilà.
Martine Loisig, maire de Locmaria Grandchamp, depuis 2008. Le but d'avoir des logements sociaux, c'est de répondre aux demandes que nous avons, nous, en mairie. On n'a pas beaucoup de logements sociaux. Et là, les demandes, oui, il y en a beaucoup. De plus en plus. En tout cas, ça attire. Parce qu'avant, on va dire 2008, Locmaria Grandchamp, c'était pas très connu de la population. C'est vrai que la création du cœur de bourg et l'aménagement du bourg a donné une autre notoriété dans le bassin de Vannes, effectivement, et la reconnaissance de Locmaria Grandchamp. Mais le cœur de bourg, on l'a travaillé en atelier avec la population. Donc la population, elle était invitée à venir aux ateliers pour préparer la base. On a travaillé quand même pendant plusieurs mois, des années, sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est vrai que la population est très satisfaite. Ça marche bien, et moi c'est ce que je dis également aussi, je pense toujours à notre population la plus âgée de la commune. Quand on me dit qu'on est fier de notre bourg, je crois que ça c'est pareil. C'est pas la peine de dire autre chose. C'est le plus grand merci.
Alors Stéphane Martin, est-ce que l'exemple de Locmaria, ça montre une politique qui marche en matière de logement social en milieu rural pour vous ?
Oui, je crois que ce qui est important, c'est de comprendre aujourd'hui qu'on ne peut plus construire des lotissements à 1,5 km du bourg, très loin de la boulangerie. On voit bien que l'objectif, c'est de ramener des personnes vers les centres-bourgs avec une offre de services. Et je pense que l'exemple est bon. C'est aujourd'hui ce qu'on doit faire. Mais ce que ne dit pas la dame, c'est que c'est très compliqué avec l'église qui est à proximité, avec les normes au niveau des bâtiments de France. Eh bien, les dossiers sont longs. Et si on arrive à ramener des gens vers les centres-bourgs, des personnes âgées qui pourront aller voir un médecin, si on peut amener aussi des personnes qui vont être en logement très social, donc des ménages comme très pauvres, hein, et aussi travailler sur l'accession sociale à la propriété avec des ménages aussi qui auront des enfants. Donc là, on est en train de revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on a laissé le marché faire, on est parti construire des lotissements très loin des centres-bourgs. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de ramener des personnes vers les centres-bourgs. Et la question du logement social, ben là, elle s'intègre bien. Ça ne sera pas une barre, ça ne sera pas une maison individuelle, mais on sera avec une mixité des produits. Donc je pense que c'est un très bon exemple, mais l'exemple est quand même rare. Hein. Il faut dire aujourd'hui, dans la conception du logement social, on a des ratios, on a des modes de construction, et on voit bien qu'il faut un élu très motivé, extrêmement fort, qui va réussir à monter ce projet. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu une consultation des habitants, et on voit bien qu'eux trouvent que c'est extrêmement bien.
Vous êtes toujours dans les murons des oreilles. On se retrouve dans un instant, mais tout de suite une pause musicale avec The Sennheisers, Around You.
All around, I'm around you. some white roses in the air. I sleep under a tree. I'm staying until it's dawn.
Toujours à l'écoute des Murs ont des oreilles. Si vous nous rejoignez, les Murs ont des oreilles, c'est une émission qui vous est présentée par les étudiants en journalisme de l'IUT de Lannion, toujours en compagnie de Stéphane Martin de la Fondation Abbé Pierre et de Yasmine Eligon de la CLCV. On vous a parlé mobilité, village service, on discute maintenant avec vous de mal logement. Stéphane Martin, la Fondation Abbé Pierre, chaque année sort son rapport qui montre encore que 4 millions de Français vivent cette situation. Du côté du logement social, des solutions existent comme des aides financières à la rénovation. Ces subventions sont données par l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat, et gérées plus localement, notamment par le Point Info Habitat de Lannion. Bruno Carrefourne, habitant de Louannec et propriétaire d'une maison à Perros-Guirec, en a bénéficié. Un reportage de Redidja Zerouali et Salambo Marie.
Il y a 2 ans et demi, j'ai acquis une maison qui était dans un état de non-entretien avancé, on va dire. Et c'est une personne seule qui habitait dans la maison et elle ne l'a jamais entretenue. Pour tout vous avouer, quand j'ai acheté la maison, il y avait tellement de bric-à-brac dans les pièces que je ne savais même pas combien il y avait de prises de courant. C'était compliqué. Le constat était fait qu'il fallait revoir toute l'installation électrique. Donc j'ai cherché une solution pour pouvoir financer le delta entre le crédit et la rénovation totale. Mon but, c'était de refaire un logement à l'année. Alors c'est atypique, c'est une maison dont les chambres sont au rez-de-chaussée et l'espace de vie au premier étage. Parce qu'au premier étage, vous avez une vue mer en fait. J'ai gardé les murs et la toiture. Tout a été refait, du sol au plafond. Si j'avais pas eu ces subventions, j'aurais pas pu rénover la maison telle que je l'ai rénovée. La maison que j'ai achetée faisait partie d'un programme HLM dans les années 70, à Perros-Guirec. Quand j'ai eu ce projet, j'avais pas du tout imaginé faire du logement social, non, du tout.
La maison de 95 mètres carrés est désormais considérée par la commission SRU comme un logement social. Bruno Carrefourne s'est engagé à la louer à bas prix pendant 15 ans. Mais pour Roland Lambert, chef du service de planification logement à l'ANA, ces aides sont malheureusement trop peu sollicitées.
L'objectif est bien sûr de traiter les situations d'habitat indigne. On a effectivement des signalements provenant du parc social, mais quand même très très peu. En général, on ne va pas, vers des situations d'insalubrité. Ce serait effectivement assez anormal qu'un organisme HLM se retrouve dans cette situation-là. Des logements indignes ou insalubres, on en a financé très peu avec l'ANA. Hein. Les propriétaires occupants qui sont dans un logement indigne ou indécent, naturellement, ils ne viennent pas se plaindre. Dans beaucoup de cas, les gens, soit n'ont même pas conscience qu'ils sont dans un logement indigne, se satisfont de ça. Il y a des situations où il y a une conscience, effectivement, mais les gens ne veulent pas parce que financièrement, ils ne veulent pas engager de travaux. C'est vraiment une part infime parce que c'est les gens qui sont les plus difficiles à convaincre pour aller vers des travaux.
Alors Stéphane Martin, est-ce que ce type de logement conventionné par l'ANA, ça fait partie des solutions pour lutter contre le mal-logement selon vous ?
Bah oui, c'est une des meilleures solutions, hein. Trouver des logements qui sont vides ou qui sont indécents ou indignes, trouver un propriétaire qui voudrait bien le remettre sur le marché en réduisant fortement les loyers, c'est une très bonne solution. Des logements vides, des logements privés y en a partout, sur quasiment toutes les communes. Et on voit bien qu'au niveau de la production du logement social, on va avoir un peu de mal. Donc c'est une très bonne initiative, mais ce monsieur, il faut le dire, il est très rare. On n'a pas beaucoup de dossiers. Alors qu'on sait très bien que des logements indignes, il y en a dans toutes les communes. Parce que je pense qu'on n'a pas des outils financiers qui sont intéressants. On ne sait pas vendre le conventionnement ANA, on ne sait pas travailler sur la fiscalité, on ne sait pas peut-être apporter des garanties de loyer, des garanties contre les dégradations. Donc il faut faire un effort considérable sur ce sujet. Et on voit que l'État aujourd'hui ne propose pas des solutions pour mobiliser le parc privé. Donc c'est un vrai enjeu pour la Fondation Abbé Pierre. On est parti plusieurs fois voir le ministre. On lui a dit, voilà, bah, on voit bien que sur la question du logement social, avec la baisse des appels, on va être en panne. Mettons le paquet sur les logements privés. Pour l'instant, les réponses ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Et nous entrons maintenant dans la dernière partie de l'émission avec des alternatives autour du logement en milieu rural. La première nous vient du nord de la France et concerne principalement les étudiants. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Mais avant, les écoquartiers, ces lotissements qui intègrent des logements sociaux écolos équipés de panneaux solaires, très bien isolés, qui ne consomment presque plus d'énergie. Direction Saint-Avé et Langouette, deux communes qui ont lancé leur projet d'écoquartier en 2005 et 2003. Un reportage de Ludmilla Guignard.
Le label Écoquartier a déjà conquis 35 communes en Bretagne. Lancé en 2008, l'enjeu est de créer un espace qui respecte l'environnement tout en favorisant la mixité sociale. La commune de Saint-Avé a aménagé un des premiers écoquartiers de Bretagne. Il comptera en 2020 270 logements sociaux, mais le lancement a été laborieux. Jean-Marie Tussaud, adjoint à l'urbanisme et à l'habitat, nous en parle.
À l'époque, c'était pas évident parce que les constructeurs y découvraient tout ça, ils savaient pas vraiment faire. Donc ça a été assez difficile à lancer, mais finalement, en travaillant, ils ont fini par développer des produits qui permettent de répondre à ces objectifs. Les bailleurs suivent parce que eux, ce qui les intéresse, c'est ensuite l'exploitation, il y a les loyers, donc tout ce qui contribue à diminuer les charges des locataires, c'est quelque chose qui les intéresse.
En Ille-et-Vilaine, la petite commune de Langouette est bien connue pour sa politique écologiste. Le maire Daniel Cueff s'y engage depuis des années, cantine bio, écoquartier, et bientôt un projet d'habitat social zéro consommation. Il a fait de sa commune un exemple.
Pour nous, la question est de développer l'écologie sociale, c'est-à-dire l'écologie pour tous, pas simplement pour les personnes aisées. Depuis presque 20 ans maintenant, nous essayons de faire en sorte que le logement social en particulier puisse bénéficier des évolutions des techniques écologiques. Donc on a commencé avec ce que nous pouvions commencer et aujourd'hui nous sommes arrivés à des lotissements, à des logements qui sont très peu consommateurs d'énergie. Et là nous passons à une autre phase, nous verrons une maison qui sera en logement local sociale, qui est une maison triple zéro, zéro besoin en énergie, zéro déchet, zéro carbone.
Une maison de 92 mètres carrés qui sera louée 400 euros par mois. Le maire de Langouette a bien voulu nous la faire visiter.
Alors, vous pourrez voir.
Vous voyez, ça ressemble à un peu à un bateau, un navire. C'est une maison insubmersible qui est chauffée naturellement donc par un système de géothermie. Donc la maison est recouverte de terre. C'est un procédé que l'on trouve depuis longtemps, notamment en Islande. Mais là, ça a été calculé par les ingénieurs de telle manière à ce qu'il y ait un accès par l'extérieur. On va sur son toit faire son jardin. Si cette maison-là s'avère concluante, si les tests s'avèrent concluants, si les gens aiment aussi ce type d'habitat, eh ben ce sont 8 maisons qui seront construites ici sur ce terrain.
Le projet est encore en phase expérimentale. Reste à savoir s'il sera assez rentable pour les bailleurs. En attendant, les locataires sont déjà nombreux à vouloir réserver une place.
Personne ne voit.
venez d'écouter Orchestre Tout-Puissant Marcel Duchamp sous mes yeux. Vous êtes toujours à l'écoute des Murs ont des oreilles. Et c'est le moment du débat entre nos deux invités. Valentin Giraud, je vous laisse la main.
Merci Chloé Magister. Alors avec nous toujours Stéphane Martin, directeur de la Fondation Abbé Pierre Bretagne. Oui. Et Yasmina Eligon, vice-présidente de la CLCV de Rennes, une association représentant les habitants. Donc dans les différents reportages, on a pu entendre la voix de plusieurs habitants des logements sociaux. Vous avez dit, vous Yasmina Eligon, en début d'émission, que c'était souvent un choix de venir en campagne justement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un profil type de locataire en logement social rural ou...
Non, je ne pense pas qu'il y ait de profil type. Par contre, il y a en gros deux types de demandes. Des locataires qui ont trouvé un emploi, par exemple, dans le secteur rural, et pour eux, effectivement, ils préfèrent habiter proche de l'emploi. Donc la proximité de l'emploi, c'est important. Concernant des personnes un peu plus âgées, leur demande, ça va surtout être d'avoir justement des services de proximité, l'aide à la personne, le bien vieillir, et ça veut dire aussi que le logement doit pouvoir être adapté à ce vieillissement. Donc on le trouve en ville, mais dans le milieu rural, peut-être encore plus fortement.
Et vous justement, Stéphane Martin, à la Fondation Abbé Pierre, est-ce que vous pensez aussi que c'est un choix plutôt de venir en milieu rural, ou c'est parce que le marché est trop tendu en ville?
Alors il y a plusieurs dynamiques, effectivement cette question de marché très tendu dans les agglomérations et l'envie d'avoir un logement social peut-être plus grand avec un jardin, avec un balcon, ça effectivement aussi c'est un choix, mais on a entendu il y a très peu de logements sociaux en secteur rural, donc là aussi les listes d'attente elles sont relativement longues. Et puis il y a aussi, faut le dire, des logements privés en secteur rural qui sont dégradés, qui sont faits énergivores, et des gens qui sont quasiment obligés de faire une demande de logement social pour atteindre une qualité de logement. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'effectivement entre le parc privé en secteur rural qui est très souvent de mauvaise qualité au niveau thermique et les logements sociaux, il y a vraiment effectivement des très grandes différences. Et donc quand on est arrivé aussi à un certain âge, un peu isolé dans un hameau, très souvent la seule solution c'est de demander un logement social pour avoir des logements qui seront beaucoup, beaucoup plus confortables. Donc on voit effectivement que la pression sur le logement social elle sera de plus en plus forte en secteur rural, mais en même temps, on n'a pas effectivement aujourd'hui, de la part de certains acteurs, une volonté de produire beaucoup, car le risque, c'est que peut-être qu'un jour, ces secteurs seront un petit peu délaissés, un peu loin des zones économiques, et donc on va se retrouver avec des risques de vacances. Et ça fait extrêmement peur, et c'est un frein pour construire réellement, assez massivement, du logement social.
Et on s'est rendu compte aussi dans nos reportages que la plupart des habitants, finalement, c'était des habitantes, des femmes. Est-ce que c'est une réalité, ça? Il y a plus de femmes que d'hommes dans le logement social ou pas forcément? Yasmina Eligon.
Non, je ne pense pas. Alors après, il faut regarder qui est signataire du contrat de location. Il y a des secteurs peut-être où il y a davantage de femmes chefs de famille qui sont effectivement locataires en titre. Mais je ne pense pas qu'il y ait tant de différence que cela.
Stéphane Martin, dans le clairage régional du mal-logement que la Fondation Abbé Pierre a sorti en début d'année, vous pointez justement qu'il y a une hausse de demande, comme chaque année, de logement social, et que c'est la principale demande, elle est sur les demandeurs externes, des gens qui ne vivent pas encore en logement social. Comment vous l'expliquez, ça?
Alors, déjà, on peut dire qu'il y a des gens qui viennent en fait en Bretagne, parce que la Bretagne est attirante à plusieurs titres. C'est une région où on vit bien, c'est une région où il y a de la solidarité. On a une métropole très dynamique aussi, Rennes, et tout ça, ça tire effectivement des demandes de logement social vers le haut. Je rappelle les chiffres, 56 000 demandes de logement social, 23 000 attributions. Donc on voit bien que déjà, il y a un écart qui se creuse. Et en même temps, je pense que beaucoup de gens aujourd'hui, notamment dans les agglomérations, n'ont pas accès en fait au parc privé. On voit bien que l'encadrement des loyers, on l'a appelé de nos voeux, mais il n'est pas là. Donc on a ces difficultés. Donc les gens qui ont les ressources les plus faibles n'ont d'autre choix que d'aller vers le logement social. Et on voit que là, on sent qu'il y a un engorgement, il y a une pression complémentaire. Et donc voilà, ça va poser des questions pour l'avenir, dans un contexte de restrictions financières aussi pour la production de logements. Donc c'est très inquiétant.
Et il y a aussi le fait que, comme vous le disiez, il y a 60 à 70% des ménages qui sont éligibles au logement social. Et pourquoi, vous, je sais qu'à la Fondation Abbé Pierre, vous faites aussi du logement très social. Alors déjà, c'est quoi et pourquoi on a besoin d'aller vers ça ?
C'est la question de la qualité du parc. Hein. On a un parc privé en Bretagne qui est énergivore, qui est un petit peu ancien, qui est disséminé sur tout le territoire. Et donc, voilà, quand vous avez effectivement des loyers relativement élevés et que vous ne pouvez pas du tout payer vos charges, payer votre chauffage, eh bien, on voit bien que la solution, ça peut aussi être dans le logement social. On a aussi parlé là des logements sociaux avec quasiment zéro consommation Niveau du chauffage. Donc ça, c'est vraiment en fait un attrait très important. Le logement social, en fait, il protège. Hein, normalement, quand vous avez un contrat de location, c'est pratiquement à vie, hein, c'est ce qu'on peut dire. Alors que dans le parc privé, eh bien, au bout de 3 ans, eh bien, votre propriétaire peut vous demander de partir parce qu'il va vendre ou reprendre le logement. Donc on est bien sur un logement de protection. Donc ce qui fait que pour des ménages qui ont des très faibles ressources, eh bien, c'est très attirant. Et ils ont bien raison.
Et justement, donc on en parlait aussi de l'intérêt d'avoir des logements sociaux dans les milieux ruraux. Est-ce que c'est intéressant pour vous d'en avoir, sachant que par exemple, les loyers dans le parc privé sont souvent équivalents au parc social, parfois en campagne. Et on l'a vu aussi tout à l'heure que les questions de mobilité se posent. Donc est-ce que la pertinence du logement social en milieu rural, on peut la poser, Yasmina Eligon?
Je voudrais réagir aussi un petit peu sur la question du logement indécent, parce que c'est vrai que les organismes HLM ont à cœur de bien entretenir leur logement, mais malheureusement on trouve quand même des logements qui ne sont pas aux normes d'habitat. D'ailleurs, avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre, nous engageons un travail en direction des locataires qui sont dans ces situations-là, de manière à ce que les propriétaires fassent le nécessaire pour éviter les risques de sécurité ou de santé pour les habitants, parce que le propriétaire a quand même l'obligation de fournir un logement qui ne présente pas de risque en termes de sécurité ou de santé pour l'occupant. Malheureusement, nous-mêmes, nous avons été surpris, puisque sur 23 dossiers que nous avons traités en Ille-et-Vilaine en 2017, 13 provenaient du secteur privé et 10 quand même du secteur public. Donc là, des actions d'abord en termes de démarche amiable vis-à-vis du propriétaire ont quelquefois réussi à faire en sorte que les travaux soient engagés. Malheureusement, nous avons dû aller quelquefois jusqu'en justice pour obtenir des travaux, une indemnisation des locataires.
Donc pour vous, les logements indécents, ça peut exister aussi en milieu rural ?
Ah oui, c'est réparti. On a une répartition un petit peu dans tous les domaines. Nous en avons sur la ville de Rennes, nous en avons sur Rennes Métropole et nous en avons dans le milieu rural.
Stéphane Martin, vous avez l'air de dire qu'à l'inverse, vous voyez plutôt le logement social comme une alternative justement au mal logement privé en milieu rural, et que c'était le logement social était assez bien en milieu rural.
Alors, il y a différentes formes. Vous aviez effectivement les anciens logements, donc les grandes barres. Hein. Il y en a eu quand même quelques-unes en secteur rural. Aujourd'hui, effectivement, on sait que c'est plus ce qu'il faut faire. Beaucoup de maisons individuelles, là aussi. Donc, ça correspond effectivement à l'offre, en tout cas, en fait, à la demande des personnes. On voit bien aujourd'hui que le logement social, quand même, au niveau thermique, il est beaucoup plus intéressant que ce qu'on a dans le parc privé. Si on fait de la moyenne de la qualité thermique du parc au niveau social, on est sur un DPE qui est en D, donc c'est plutôt pas mal. Alors que si on regarde la moyenne du parc en parc privé en secteur rural, eh bien on est sur quelque chose qui va être entre F et G. Donc la qualité est plus importante. Vous avez en fait une garantie aussi sur l'occupation, et vous avez en fait un bailleur qui a les capacités aussi de faire des travaux. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en secteur rural, il y a des propriétaires qui ont un logement ou deux, qui ont souvent des ressources extrêmement faibles et qui ne peuvent pas faire des travaux, qui peuvent le mettre en location, mais qui ne pourront pas faire des travaux. Donc quand on est dans le logement social au secteur rural, on a comme certaines garanties de ne pas avoir à payer trop de chauffage, d'avoir des loyers qui n'évolueront pas, d'avoir une certaine forme de pérennité dans le logement et d'avoir un propriétaire qui pourra faire les travaux. Alors il ne va pas les faire sur un seul logement, il va les faire sur un parc, hein. Donc ça apporte beaucoup de garanties.
Et plus qu'un choix, c'est peut-être même aussi une solution au mal logement urbain ou quelque chose comme ça, d'aller en logement social rural ?
Alors c'est une solution, effectivement, mais pour ça, il faut qu'il y ait des crédits pour produire du logement. On voit bien aujourd'hui que le fonds des aides à la pierre qui participe à l'effort de production a fortement baissé en 2018. Hein, de 150 millions d'euros, on est passé à 50 millions d'euros de financement de l'État. Et puis au niveau des APL, hein, n'oublions pas aussi de rappeler un chiffre, à hauteur de 2020-2021, c'est 3,2 milliards d'euros en moins pour les bailleurs sociaux. Comment vont-ils faire pour continuer à produire du logement dans des zones où peut-être que la demande elle est moins forte, elle est moins tendue? Nous, on a comme la grande crainte que les bailleurs sociaux vont continuer à produire du logement social parce que c'est leur métier, le cœur de métier, mais ils vont le faire dans les zones les plus tendues, dans les agglomérations. Donc on voit bien que par un effet de siphonnage, la grande crainte, c'est qu'en secteur rural, ben, il y ait moins de logements sociaux produits. Et comme on voit que les propriétaires au niveau du conventionnement ANA ont du mal à se positionner sur ce produit, on a peur qu'on laisse faire le marché et donc on ait des logements énergivores et des logements indignes et qu'on n'ait pas vraiment les outils pour y faire face.
Donc vous craignez vraiment que les réformes en cours risquent de faire disparaître en quelque sorte le logement social rural?
Alors le faire disparaître, non, en fait on n'espère pas et là on sera très vigilant par rapport à ça, mais n'oublions pas aussi qu'il est prévu des ventes de logements sociaux. On est sur 8000 ventes par an aujourd'hui et là le projet de loi Élan, hein, nous annonce 40 000 ventes de logements par an. Donc on peut imaginer que des maisons individuelles en secteur rural soient vendues. Voilà, soient vendues. Et donc on retombe dans le marché. Et donc ça, effectivement, on est très inquiet.
Et ça, sur le territoire localement, les maires ne peuvent pas s'y opposer? Parce que souvent, ils sont assez attachés au logement social. Ils en veulent pour développer leur territoire.
Oui, oui. Mais il semblerait qu'il n'ait pas la possibilité toujours de s'opposer en fait, à ces ventes. Hein. Alors bien sûr, là, c'est qu'un projet de loi. On verra comment ça pourra se mettre en œuvre. Mais nous, on pense que vendre 40 000 logements sociaux par an, alors qu'on a 2 millions de gens qui sont en attente de logement social, ce n'est pas une politique très cohérente.
Pour revenir justement aussi sur le mal-logement, thème qui intéresse quand même particulièrement vos deux associations, Yasmine Aligon, vous me disiez, vous, que en ayant un regard à la fois sur les habitants en milieu urbain et en milieu rural, finalement les litiges, ils sont à peu près les mêmes.
Ils sont les mêmes, oui. Parce que globalement, le locataire, lorsqu'il nous sollicite, c'est pour soit justement obtenir des travaux dans son logement. Je voudrais juste repréciser aussi par rapport au logement indécent, et c'est vrai, M. Martin le disait bien, nous, quand on gère un litige entre un propriétaire et locataire, on sait bien aussi que quelquefois, tous les torts ne sont pas du même côté. Quelquefois, il y a une question, ce qu'on appelle l'occupation du logement, où le locataire n'a peut-être pas toujours fait le nécessaire non plus en termes d'entretien de son propre logement, et on est là aussi pour lui indiquer les bonnes pratiques, à faire en sorte de mieux vivre dans son logement. Et puis, on sait très bien aussi que le propriétaire n'a pas toujours les moyens financiers, bien sûr, de remédier à ces difficultés-là, et on l'oriente vers les services qui peuvent lui le conseiller en termes d'aide financière, par exemple. Les autres sujets, c'est par exemple lorsqu'un locataire quitte son logement. En termes d'état des lieux, on a des sollicitations parce que quelquefois le bailleur, d'ailleurs beaucoup dans le secteur public aussi, hein, est un autre de notre point de vue trop exigeant vis-à-vis du locataire sortant. Il ne respecte pas toujours la vétusté, c'est-à-dire que quand on a occupé le logement à un certain moment, le propriétaire ne peut pas exiger que tout soit remis à neuf. On a aussi des locataires qui, par exemple, demandent un logement plus grand parce que la famille s'est agrandie. Et là, c'était le cas pour un bailleur social qui exigeait que le locataire remette en état son logement avant que l'on lui accorde l'attribution du nouveau logement. Donc comment voulez-vous qu'une famille de 6-8 personnes vivant dans un T4 puisse remettre en état son logement si le logement n'est pas vide? Bon, là, on a pu régler de manière amiable ce dossier. Ça peut être aussi les appareils qui fonctionnent pas. Donc c'est tout ce qui concerne le logement en lui-même pour lesquels les locataires nous sollicitent, soit individuellement, soit collectivement. Parce que ça peut être aussi l'entretien des parties communes, ça peut être les chaudières qui sont à bout de souffle et le propriétaire ne se décide pas à faire les travaux. Donc dans le logement social en particulier, on peut aussi être amené à engager des actions collectives.
Et sur toutes ces actions, vous travaillez en fait en concertation, vos deux associations, la Fondation Abbé Pierre, vous travaillez beaucoup avec justement ces associations de défense des locataires pour tous les cas de mal logement ou autre.
Oui, ben, on se rend compte que l'accès aux droits, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Alors vous avez des droits, il y a différents textes, il y a le contrat de location, mais pour des ménages qui sont forte fragilité, et bien souvent attaquer un propriétaire, lui demander des travaux, lui demander des décomptes, c'est compliqué. Et pour ça, il faut souvent en fait, une association qui va pouvoir le rassurer dans ses droits, qui va pouvoir faire des courriers en son nom, l'accompagner, voire même l'accompagner jusqu'au tribunal. Et on essaie de mettre en place un réseau régional de 8 associations sur le territoire qui vont accompagner en tout cas ces locataires en difficulté, alors sur les impayés de loyer, mais aussi sur la non-décence. Et on a une convention avec les CLCCV, que ce soit à Rennes, mais aussi à Quimper et à Brest, pour accompagner ces ménages. Parce qu'on peut avoir des droits, mais les mettre en œuvre de façon effective, c'est plus compliqué. Quand vous êtes un locataire face à un propriétaire, bien souvent vous sentez un peu en difficulté.
Et concrètement, donc, il se fait comment ce lien avec les deux associations? C'est-à-dire que vous allez repérer peut-être des cas de mal logement ou autre et les remonter jusqu'aux associations ou...
Non, je crois que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'ils tiennent des permanences, ils ont des contacts avec des locataires. Et nous, ce qu'on va soutenir, c'est leur effort. On va leur apporter des financements. On va travailler aussi ensemble sur la communication, sur les stratégies au niveau juridique. Sur l'interpellation, on a tout un travail à faire qu'on a commencé à mettre en œuvre et qu'il faut développer encore plus, peut-être avec plus de stratégies aujourd'hui, notamment pour amener des locataires de plus en plus souvent vers le juge. Car ce qu'on remarque tous, c'est que assez souvent, un locataire qui est en difficulté, il va être dans une tentation de partir, de quitter son logement avant de faire des démarches. Et pour un locataire faire une lettre, en recommander à son propriétaire, c'est extrêmement dur. Et donc souvent les gens partent sans se plaindre, en abandonnant un dépôt de garantie avec quelques impayés de loyer, ça arrive assez souvent. Donc nous on dit non, on va jusqu'au bout, et puis si un propriétaire ne respecte pas les règles du jeu, eh bien on lui rappellera, la CLCV, les autres associations, la Fondation Abbé Pierre, on lui rappellera qu'il a des obligations légales.
Justement, vous me disiez, Yasmine Aligon, peut-être que les locataires aussi ont du mal des fois à faire le premier pas, aller vers les associations aussi.
Oui, tout à fait. Alors quelquefois, ça passe aussi par les services sociaux qui orientent les personnes vers nous. On a aussi des relations avec l'agence d'information logement, l'ADIL. Donc tous ces liens-là, effectivement, sont importants. Concernant, puisque dans les reportages, il y avait une question sur les charges locatives, nous, on incite aussi les locataires tous les ans à venir nous voir lorsque le bailleur, s'il le fait, parce que quelquefois les bailleurs ne le font pas toujours non plus alors qu'ils en ont l'obligation, ils doivent donner un décompte de charges annuel, puisque les locataires ont payé toute l'année des provisions et la régularisation de charges doit se faire une fois par an. Et c'est là l'occasion de vérifier si le locataire n'a pas payé trop de charges ou s'il y a des dysfonctionnements. Par exemple, dans le secteur HLM, on remarque quelquefois des consommations importantes d'électricité et de manière brutale d'une année sur l'autre, ou des consommations d'eau très importantes dans un immeuble, alors que l'immeuble d'à côté, qui a la même nombre de logements, a une consommation inférieure. Pardon. Donc on demande aussi des explications sur le détail de ces frais-là.
D'accord. Bon, et bien merci à Yasmine Aligon, merci Stéphane Martin.
Merci.
Et puis Chloé Magister, je vous rends l'antenne.
On vous en parlait tout à l'heure, des logements étudiants à la ferme, c'est l'alternative que propose l'association d'agriculteurs Campus Vert. Initialement originaire du Nord-Pas-de-Calais, l'initiative est aussi arrivée en Bretagne, dans l'agglomération rennaise, où 8 exploitants ont choisi de rénover des bâtiments agricoles pour en faire des logements étudiants, comme à Chantepie et à la Chapelle Toireau. Les prix sont avantageux, en moyenne 20 à 25% moins cher que le prix du marché locatif sur Rennes. Avec Salambo Marie, nous avons rencontré des étudiantes qui ont délaissé le Crous et autres colocations pour aller vivre à la campagne, ainsi que leurs propriétaires.
Ça, c'est la petite chambre. Donc, c'est tous les mêmes escaliers, tous les mêmes finitions aussi. C'est important, quand on restera à un bâtiment, de garder l'âme.
Alors, moi, c'est Marie-Vonne Pantier. J'étais
agricultrice, aujourd'hui à la retraite. Donc le bâtiment c'était l'étable et on l'a rénové, on l'a aménagé en fonction pour faire des petits appartements. Nous, l'exploitation ne pouvait pas continuer, donc c'était une façon d'utiliser le bâtiment et d'entretenir le patrimoine. C'est des duplex de 39 mètres carrés meublés. Nous, l'exploitation, il reste que des allaitantes autour, parce que alors, il reste que 4 hectares avec les bâtiments là, parce qu'on s'est fait massacrer par les routes. Donc c'est pour ça que l'exploitation a cessé son activité. On a les inconvénients de la ville et les avantages de la campagne. Mais on a toujours travaillé comme ça, parce que même en tant qu'exploitation, c'était pareil, hein, c'était pas facile d'exploiter au bord de la ville, et il y a des inconvénients, il y a des avantages, il faut en tirer le meilleur. Quand on cherche ce type de logement, quelqu'un qui n'aime pas être dérangé ou qui veut voir personne, il va pas venir là. Ça fait un lien. Je pense que ça les dérange pas non plus.
Bonjour.
Je m'appelle Gladys Grelier, j'ai 22 ans. Je fais une école d'éthiopathie donc à Rennes, à Beauregard. Je suis là depuis 4 ans. On m'avait proposé une coloc et ça s'est pas fait. Et directement, j'ai visité plein d'appartes et je me suis rendu compte que celui-ci, c'était le plus beau. Et c'était aussi un qui était le moins des moins chers, en fait. Parce qu'il y a l'appartement, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui est qualité des services à côté aussi. Donc on peut se promener. On peut toujours lui demander des services. Je voulais inviter mes copains, je lui ai dit, elle m'a dit, bah bouge pas, je te mets de la lumière dehors. Enfin, c'est vraiment ce contexte-là. On sait qu'il y a toujours quelqu'un qui est là avec nous. Moi, je sais que j'aime bien, tous les jours, je m'arrête, je discute avec eux. Puis en vrai, on n'est pas si loin de la ville.
Je m'appelle Jocelyne Bigot. Donc moi, je ne suis pas du tout sur l'exploitation, c'est mon mari qui est exploitant. Moi, je suis comptable. On a décidé de faire du logement pour étudiants parce qu'on avait un bâtiment qui ne servait plus, qui était plus ou moins abandonné. Et donc, à un moment donné, on se demandait quoi en faire de ce bâtiment-là. C'est uniquement des étudiants dans un premier temps, mais après, l'étudiant, il peut très bien devenir salarié et rester, quoi. Et ça, on peut pas les mettre dehors.
Voilà, donc ça, c'est la salle de version des marchetières. Avec la salle de traite qui est là.
Et c'est quoi le bruit qu'on entend là, du coup?
Ça, c'est la treilleuse.
Oui, moi je connais. Enfin, c'est pas toute la journée, hein, c'est juste au moment de la traite. J'aime bien, au contraire, moi ça fait campagne.
Moi c'est Laurine Caillot, donc je suis en études à Montfort-sur-Meux là. Je vais avoir 20 ans et je suis en BTS, AXE, dans l'agricole. J'ai toujours habité en campagne, donc la proximité, je trouve que là c'est très bien, quoi. Bon, on se voit pas trop souvent, qu'on n'a pas les mêmes horaires, je pense. Donc,
C'est le même problème pour tout le monde, en fait.
On a des horaires décalés, quoi. Moi je pars de bonne heure le matin, je rentre tard le soir, elle c'est pareil, donc on se voit très peu, quoi, en fait. C'est vrai que moi j'aurais bien voulu avoir des échanges un peu plus par rapport à ça, mais bon, après, voilà, c'est comme ça, quoi. Et c'est vrai qu'eux, ils sont occupés, quoi. Celle avec qui on a eu le plus de liens, c'est celle qui a été là 4 ans, la première, quoi. Elle avait une situation difficile, ses parents l'avaient rejetée aussi, donc voilà. On était ses deuxièmes parents, quoi. Après, on est à côté, quoi, donc moi, je leur dis bien, quand ils arrivent, dès que vous avez un besoin particulier, n'hésitez pas. Ça peut être leur prêter un vélo, elles ont un barbecue à disposition. Voilà, si elles ont besoin d'un moyen de transport, on le faisait, quoi. Ici, effectivement, nous, on leur propose du lait, on leur propose des fruits parce qu'il y en a un peu, des œufs quand j'en ai en trop, des légumes. Voilà, c'est des petits plus comme ça qu'ils ont, qu'ils n'auraient pas, effectivement, s'ils étaient en ville, hein. C'était un beau projet, un bel investissement, et bon, ça a créé aussi des contacts avec d'autres propriétaires comme nous qui ont fait la même chose, quoi. Et c'est vrai que nous, on aurait bien voulu que ce genre de choses se développe un peu plus en Ille-et-Vilaine, sauf qu'on a été refusé en fait par la Chambre d'agriculture, déjà, d'une part.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, Campus Vert, hein, ça vient du Nord-Pas-de-Calais. Donc, l'origine n'est pas d'Ille-et-Vilaine. Donc, du coup, La Chambre d'agriculture de Lévis n'a pas accepté que l'idée vienne d'ailleurs. Les permis de construire, en fait, quand on mettait que c'était campus vert, ben, c'était refusé. Donc du coup, le maire nous avait dit, ben, il faut le déclarer en gîte. Et en le déclarant en gîte, ça passera. Donc, en fait, c'était une ancienne écurie, enfin, du temps de tes parents, hein, c'était une ancienne écurie. Donc, voilà, alors, la toiture, enfin, c'était du fibro, tout était à refaire. Hein, et donc, aujourd'hui, ben, il n'a plus la même tête, quoi. Hein. Ouais, il ne servait pas, ce bâtiment-là, il ne servait à rien. Hein. Alors, après, on avait mis on stockait des céréales à l'étage. Voilà, et ça servait de débarras en dessous, quoi. Hein. Donc voilà, nous on avait envie de, bah, que surtout qu'il était au pied de notre maison, quoi, de refaire quelque chose de propre, quoi. Voilà ce qu'il est devenu. C'est deux duplex en fait. Ils font 25 mètres carrés chacun. C'est deux identiques. Alors les loyers, nous on est à 280 sans les charges. Le rez-de-chaussée, donc la kitchenette, la salle de bain et la chambre est au-dessus, à l'étage.
Pour le prix qu'on paye, je trouve qu'on a vraiment un bel espace. Et en haut, vous avez la chambre. Bon, par contre, j'ai une grande chambre. J'ai une grande chambre et j'ai une pièce pour mettre mes vêtements.
Moi, maintenant que je suis là, je pense que je vais rester.
Une petite précision par rapport à ce reportage. Donc, c'est pas la chambre d'agriculture qui donne les permis de construire. En fait, il donne seulement un avis consultatif que les mairies peuvent ensuite suivre ou non. Voilà, c'est la fin de cette première émission. L'occasion pour nous de remercier les radios bretonnes qui nous diffusent et plus particulièrement Canal B qui nous a prêté ses studios. On vous remercie aussi Stéphane Martin et Yasmina Eligon de votre présence.
Merci.
En attendant le deuxième épisode des Murons des oreilles, vous pourrez retrouver nos reportages en podcast sur notre SoundCloud. Restez connectés.